Changer nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, bienvenue dans le jour 7 de notre émission Les 10 films qui ont changé le monde. Quel est le film du jour? En deux questions, vous allez trouver la réponse. Quel film a été 12 années durant le plus grand succès d'histoire du cinéma au box-office? Quel en est le réalisateur, sachant qu'il a lui-même battu son propre record avec son film suivant? Facile, hein? Le réalisateur c'est James Cameron, le film suivant c'est Avatar, et donc le film du jour, sorti en janvier 1998, c'est celui qui restera pour l'éternité The King of the World, Titanic. Aujourd'hui avec nous pour parler de Titanic, je suis ravie d'accueillir Bruno Podalydès, bonjour.
Bonjour.
Alors après des études de biologie, vous abordez la réalisation en faisant des films d'entreprise. En 92, c'est votre premier court-métrage « Versailles rive gauche » dans lequel jouent votre frère Denis et Isabelle Candelier. Il remporte le prix du public et une mention du jury au Festival de Clermont-Ferrand, deux prix au Festival de Champs-Rousses et le César du meilleur court-métrage. Ça, vous êtes lancé. Voilà, justement, c'est le titre de votre second court-métrage qui est sélectionné au Festival de Venise. Parallèlement, vous tenez dans les cahiers du cinéma une chronique intitulée « L'un n'empêche pas l'autre ». En 1998, votre premier long-métrage, « Dieu seul me voit », alias Versailles Chantier, avec toujours Denis Podalydès et Jeanne Balibar, reçoit le César du meilleur premier film. En DVD, on peut d'ailleurs en trouver une version longue du film, intitulée « La version interminable ». En 2001, vous sortez « Liberté au Oléron ». En 2003 et 2005, vous réalisez deux adaptations de l'œuvre de Gaston Leroux, « Le mystère de la chambre jaune » et « Le parfum de la dame en noir ». En 2009 sort Banc public, alias Versailles rive droite, ce qui clôt ce que vous appelez joliment votre trilogie des gares. En 2011, vous réalisez Adieu Berthe, l'enterrement de Mémé. Le scénario écrit avec votre frère est conçu comme une suite à Liberté Oléron. Le film est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. En 2014, vous réalisez Comme un avion, dans lequel vous jouez aux côtés de Sandrine Kiberlin, Agnès Jaoui et toujours votre frère Denis. En 2018, vous adaptez la célèbre bande dessinée Bécassine de Joseph Pinchon. Et puis après avoir obtenu le label Cannes 2000 et avoir dû attendre la fin de tous les confinements, c'est enfin en juin qu'est sorti Les Deux Alfred, avec votre frère Denis, Sandrine Kiberlin, Michel Buyermoz, entre autres. Un film délicieux dans lequel vous ironisez sur notre société ubérisée et polluée par l'esprit de sérieux. Alors inviter un acteur, scénariste et réalisateur qui livre un cinéma tendre, doux et poétique à l'autre extrémité du spectre cinématographique pour parler de Titanic, ce mastodonte, c'est une proposition décalée qui allait bien avec votre sensibilité, il me semblait. Vous qui avez beaucoup pratiqué le kayak, vous devez aimer les bateaux qui prennent la mer. Quand est-ce que vous avez vu Titanic la première fois, vous en souvenez?
Non, j'ai aucun souvenir, mais j'imagine le naufrage d'un kayak, ça ferait un film beaucoup plus court.
Un court-métrage. Vous vous souvenez pas du
non,
tout?
Non, c'est drôle. Non, j'ai vu. En fait, j'ai vu plusieurs fois et du coup, mes visions se mélangent, mes souvenirs.
Et vous, plusieurs fois volontairement ou par hasard?
Ah non, volontairement. Non. Ah. C'est un film que j'attendais. Je suivais les péripéties de son tournage, les gens qui criaient au naufrage financier. Je savais qu'ils avaient construit le bateau quasiment l'identique. Enfin, j'étais en tant que réalisateur très intrigué par la démesure des moyens. Déjà persuadé que ce serait malgré tout un film d'auteur. C'est ça qui m'intéressait.
Oui,
quand on donne l'exemple, on oppose toujours film commercial et film d'auteur. Mm-hmm. Je trouvais que Titanic, c'était vraiment le contraire de ça. C'est-à-dire un film très commercial, forcément, vu les enjeux. Et en même temps, un film porté par quelqu'un. Il a écrit, il a tourné, il a monté. Il a même fait les dessins. J'ai lu les dessins qu'on voit.
Les maquettes.
La première apparition. Non, les dessins qu'on voit dans le film.
Ouais.
De Kate Winslet, nue
avec
le bijou.
Ouais.
C'est les mains de James Cameron qui dessine. C'est lui qui a fait ses dessins. Donc, pour dire que malgré le côté titanesque, c'était porté par un seul homme. Ouais.
Une vraie implication. Donc, le film sort le 7 janvier 1998. Il remportera 11 Oscars et 1,8 milliard de dollars. Après, il ressort en DVD, en 3D, en 2012, à l'occasion du centenaire du naufrage. Et puis bon, de toute façon, comme on l'a dans la tête, autant y aller. Hein.
The
C'est curieux comme je préfère le souvenir de cette chanson à l'écoute de cette chanson.
On devrait faire toute l'émission sur les flûtes irlandaises. Ne pas arrêter, que ça soit une espèce de bain comme ça, de détente.
Oui, mais on va les hypnotiser, les auditeurs, du coup ils écouteront plus ce qu'on a à dire.
Oui, oui, oui.
Mais c'est ça le risque.
Ça rappelle un peu le film quand même, qui est comme ça, dans la flûte irlandaise, là, en revoyant, je disais quand même, il n'y a pas été de main morte. Hein.
Ouais.
Elle y est
dès le début.
Beaucoup. Hein.
Ouais. Alors c'était quand même parti pour être très compliqué ce film, un budget qui est passé de 100 millions à 280 millions de dollars, une romance façon Roméo et Juliette avec deux inconnus dans les rôles principaux, et en plus une issue que tout le monde connaît puisque le Titanic heurte un iceberg et fait naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril de 1912, entraînant la mort de 1522 passagers et membres d'équipage dans les eaux glaciales de la Nouvelle-Écosse. Ce qu'il y a de fou, c'est que en fait on met 25 minutes de film avant de monter sur le Titanic, parce qu'on monte d'abord sur l'épave.
Oui. Et les naufrages lui-même arrivent une heure et demie après.
1h40 commencent les premiers problèmes et les avaries.
Ouais. Oui, il prend le temps en fait d'installer les classes, notamment en montrant tous les bagages des premières classes, les véhicules, les chauffeurs, et qui règlent toutes les formalités administratives. Et puis évidemment le contraire, le Caprio en train de jouer au poker et qui va monter 5 minutes avant. Donc sa vie est jetée comme un coup de dé. Et puis,
ouais. Il monte 5 minutes avant en disant « Je suis l'homme le plus chanceux de la Terre ».
Oui,
évidemment. Ouais, ouais. Et le bateau s'appelait « The Heart of the Ocean ». La maquette a été fabriquée au Mexique. Elle est haute comme un immeuble de 75 étages. Elle mesure 268 mètres et elle est placée dans un bassin creusé à coups de dynamite pour contenir 68 millions de litres d'eau. C'est de la folie quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Et l'eau devait être absolument froide pour éviter la vapeur, évidemment, pour tourner. Et donc, ils ont tous haï James Cameron, parce que tous les figurants, mais aussi Kate Winslet et Léo DiCaprio, étaient dans une eau glacée. Et le tournage dure 165 jours, soit quasiment 6 mois, et 2500 figurants. Et certains techniciens avaient des t-shirts qui disaient « Il ne peut plus rien m'arriver, j'ai tourné avec James Cameron ». Vraiment, c'était pas l'ambiance du tout.
Ouais.
Et à tel point que la Fox a demandé à la Paramount, qui était pourtant son ennemi, de venir avec eux produire le film, parce que c'était trop cher, ils avaient vraiment peur, quoi.
Oui, c'était la première fois, je crois, que deux grandes sociétés concurrentes s'associaient, l'une pour l'étranger, l'autre pour l'Amérique.
C'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors évidemment, on a demandé à James Cameron de faire un effort.
C'était volontaire, c'était mon idée pour démontrer ma bonne foi au studio. Ensuite, au moment de la post-production, comme la crise financière continuait, je suis passé au niveau supérieur et j'ai renoncé à mes parts producteurs. Je ne regrette pas, c'était la bonne décision.
Alors, revendu ses parts producteurs, il faut quand même préciser qu'il revend ses droits pour $1 symbolique à la productrice du film, qui s'appelle Gail Ann Hurd, mais il finira par l'épouser. En 85, donc je pense qu'il a dû récupérer ses droits, et il a fini par divorcer 4 ans plus tard. Voilà. Comme quoi, c'est toujours un peu louche le côté « je rends mon salaire, je rends mes droits, c'est juste le temps que... »
J'ai même lu qu'un producteur l'avait protégé en disant « non, ne renonce pas à tes droits ». En fait, il en aurait gardé quand même, et vu l'accueil du film, ça suffisait largement.
C'est ça, on n'est pas trop inquiet. Vous pourriez gérer un stress pareil? Partir sur un film, parce qu'on sait très bien qu'une fois que le tournage démarre, c'est le réalisateur qui... Vous savez, c'est Alain Sardes qui disait en prépa, le producteur a le flingue sur la tête du réalisateur, et pendant le tournage, le réalisateur a pris le flingue, il le met sur la tête du producteur.
Oui, oui. Et là, en plus, lui, il était producteur, donc oui. Il se mettait le canon sur sa propre tempe.
C'est ça. Vous pourriez vivre avec un stress pareil? C'est envisageable?
Ben déjà, je m'amuse qu'on passe de Cameron à moi. je crois qu'en fait le stress, il est pas forcément plus un film a d'argent, plus on est quand même entouré, plus il y a des pouvoirs délégués, et c'est pas
on n'est pas forcément plus responsable, c'est ça que vous voulez dire?
Ou l'inverse, ou les deux. C'est-à-dire, je pense que la charge d'angoisse, à mon avis, peut être identique. C'est ça qui est. Moi, je peux angoisser pour mon petit budget à moi, de la même façon. Je parle pas de talent, hein, mais je parle de charge.
Ouais.
Je me sens aussi embarqué, c'est le cas de le dire, dans un film dont je vois pas toujours l'issue. Enfin. Je me dis souvent, si on a plus d'argent, mais il y a des gens qui sous-traitent. Enfin, bon, on peut être. Disons que moi, mon plus gros budget, c'était le parfum La Dame en Noir, et c'est là où j'ai le plus manqué d'argent. Paradoxalement.
Expliquez-moi.
Parce que j'avais des vues, j'ai quelques envies de cascade, d'explosion. J'ai pas pu mener tout à fait à bien parce que j'avais pas les... On va toujours la buter de son budget, quoi. C'est ça qui est drôle. Pas drôle. Non, mais c'est un fait.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, au départ, c'était pas du tout parti pour être un succès. En tout cas, la rumeur était vraiment mauvaise. Gérard Lefort nous le raconte.
La rumeur était très très mauvaise, les conditions de tournage avaient été compliquées et par moments catastrophiques, le budget avait explosé, on était passé de 110 millions de dollars de budget à 200 millions de dollars, bon ça les dépassements, la firme productrice, la Fox, commençait à manger son chapeau, engueulait Cameron et prédisait littéralement et sans jeu de mots un naufrage. Le naufrage n'a pas eu lieu, c'est le moins qu'on puisse dire, vous le savez, c'est le plus grand succès quasiment de tous les temps. 1,8 milliard de dollars au box-office, 11 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, etc. En France, 21 millions de spectateurs cumulés, ce qui en fait toujours aujourd'hui le plus gros succès d'un film en France. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a pris? Je pense qu'il y a plein de raisons. La première, je pense, c'est tout simplement l'histoire. Tout simplement l'histoire.
Mais on la connaît, l'histoire, Gérard Lefort. Vous dites vous-même il y a déjà eu d'autres films et l'histoire est connue. Donc pourquoi cette fois-ci l'histoire prend ?
Parce que Cameron est un immense cinéaste et son film commence par un coup d'État, c'est-à-dire il commence par la fin. Il commence par nous raconter ce que d'habitude on raconte à la fin, non pas tant le naufrage, mais l'épave, il commence par filmer avec des images documentaires qui ont été réalisées dans les années 85-86 sur la vraie épave du Titanic qui est à part 3800 mètres de profondeur au sud-est de Terre-Neuve et se sert de ces images d'archives pour progressivement, discrètement, intelligemment et brillamment, peu à peu les fictionner. C'est-à-dire qu'arrivent des personnages, dont celui qui incarne Rose, l'actrice principale, très très âgée. Enfin, là, il y a une petite entorse, parce que si on regarde les dates, elle devrait avoir 120 ans. Donc, ça ne colle pas tout à fait, mais bon, on s'en fout, c'est une fiction. Et d'un seul coup, il y a ce tour de passe-passe magnifique où on passe de l'archive à la fiction, simplement en poussant une porte. Ça, déjà... Ouvrir une porte, ben c'est ouvrir un film, c'est ouvrir un récit, c'est ouvrir une fiction. Donc je pense que sur cette histoire archi connue, qui effectivement, vous le rappeliez, a déjà fait l'objet de plein de films, dont un film nazi, vous saviez ça ?
Pas du tout.
Ah si, il y a eu, les nazis se sont jetés sur le Titanic en 1943. C'est une super production de la UFA, la compagnie de production allemande nazie. Et sous la direction directe de Goebbels, on tourne un Titanic. Pourquoi ? Alors sans doute parce qu'ils pensaient que Heisenberg était un non-juif. Et évidemment, tout le film est un film de propagande. C'est un film franchement dégoûtant. Poursuivons sur le succès quand même invraisemblable, monstrueux, génial du film. Je crois que c'est un très très beau film, littéralement sur la lutte des classes. C'est un film quasiment marxiste. C'est pour dire que par-delà les classes, eh bien, un prolo peut tomber amoureux d'une très très riche, et la très très riche peut tomber amoureux du prolo, et donc tout est possible. Bon, ce film qui raconte quand même la fin d'un monde, nous sommes en 1912, deux ans après, c'est la Première Guerre mondiale. Il filme ça, Cameron, et il filme aussi une certaine nostalgie d'un certain cinéma hollywoodien à très grand spectacle, je pense surtout au film de King Vidor. Et puis, vous savez, il y a aussi ce coup de génie aussi de Cameron, c'est de confier les rôles à Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Ils ont 22 ans au moment du film. 22 ans.
Et ils ne sont pas connus à l'époque.
DiCaprio a tout petit peu parce qu'il a été dans Gilbert Grape en 1993, le film de Lars Hallström, où il était absolument génial, le rôle d'un handicapé mental. Mais Kate Winslet, elle est quasiment inconnue au bataillon.
Et puis il a été assez prémonitoire en ce qui concerne le féminisme, parce qu'elle est féministe avant l'heure, Rose.
Absolument. À la suite du naufrage, il y a une espèce de reportage sur son avenir dans le film qui est extraordinaire. Ça devient une féminine de choc, la première à avoir son permis de conduire, à piloter des avions, à quitter le trou du cul qui lui sert de fiancée dans le film et à devenir une femme libre.
Voilà, c'était Gérard Lefort, écrivain, journaliste et grand exégèse de Titanic.
Oui, c'était très riche, beaucoup de choses. Oui, souligne le fait que effectivement Cameron raconte tout le mécanisme du film, elle a l'aspect technique avec les images 3D du bateau qui se coupe en deux, et ça je trouvais ça très intéressant qu'on sache déjà quel va être le drame à venir, enfin même si on le savait, mais surtout comment ça va fonctionner. Du coup, on s'intéresse. C'est quand même un film. Tout le monde essaie de voir le succès au-delà des moyens. C'est une histoire d'amour essentiellement. Le film, quand on le revoit, c'est pas tant que les gens qui n'aiment pas le film encore sont réticents encore à le voir. J'aurais dit, mais il y a des très gros plans des deux acteurs et c'est tout pendant longtemps, quoi. Pas que une artillerie lourde.
Non, mais ce qu'il y a de fou, c'est que même l'artillerie lourde du début, moi qui ne m'intéresse absolument pas au Titanic et à la recherche sous-marine, c'est fascinant à voir cette épave et comment on peut rentrer une caméra et visiter l'épave.
Oui, oui.
Et comment, effectivement, la modélisation sur un ordinateur de comment le bateau a coulé. C'est là où il est très malin, Cameron, c'est qu'il transforme chaque spectateur en expert avant même que l'histoire commence.
Oui, oui.
On lui dit, voilà, vous savez qu'il a coulé, maintenant on va tout vous dire sur comment il a coulé. Voilà. Et maintenant que vous êtes super qualifié, on va vous raconter une histoire.
Oui, oui. Mais c'est très beau, surtout, c'est pas si fréquent dans le cinéma américain qu'on soit instruit.
Oui.
Et dès le début.
Oui.
C'est quand même aussi, je crois, ce qu'a dit Gérard Lefort, Titanic, c'est le récit d'une femme.
Oui.
C'est un flashback raconté par une femme. Et du coup, cette femme, elle s'émancipe dans le film, elle fait un doigt d'honneur à au garde du corps là de son mari. Il y a comme ça des signes. Elle apprendra à monter à cheval, non plus en Amazon, mais jusqu'à ses photos, effectivement, on voit qu'elle a été pilote et panneau, etc. Et je trouve que c'est pas assez souligné, alors que c'est quand même un très marquant et très moderne du film.
Oui, ce qu'il y a de fou, c'est que ce bateau qui aurait pu signer sa mort a été la chance de sa vie, bizarrement.
Oui, oui, oui. Je vous le dirai peut-être plus tard, mais j'ai trouvé une fin encore plus belle pour le film.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, bah écoutez. Alors, on va peut-être écouter un petit extrait, hein, parce qu'il y a une chose que tout le monde oublie, puisque vous parlez de Rose et du fait que le film soit très féministe, c'est qu'au départ, avant qu'il y ait une histoire d'amour, ben au départ, il y a quand même une tentative de suicide. C'est-à-dire qu'elle est tellement malheureuse qu'elle quitte le dîner où elle se dit « mais je vais mourir avec ces gens-là ». Et elle court, elle court, elle court dans sa belle robe. Et son chignon qui se défait au fur et à mesure, elle croise des passagers qui la regardent d'un air étonné. Elle court sur la coursive. Elle descend un escalier. Elle continue à courir en pleurant. Là, on voit le bateau, la coursive, les gens qui la regardent passer, l'air de se dire « mais qu'est-ce qu'elle a, cette dame ?» Et puis, on voit DiCaprio qui est allongé sur un banc, qui regarde les étoiles en fumant une cigarette. Et il y a évidemment, comme on est au cinéma, énormément d'étoiles. Gros plan sur les yeux bleus de DiCaprio. Et puis il voit cette silhouette rouge en robe longue passer en courant, une femme qui pleure, et il se redresse, il la regarde. Il l'a vue 10 minutes plus tôt du pont inférieur dans le film, il l'avait déjà remarqué. Et son copain lui avait dit « elle n'est pas pour toi, laisse tomber ». Et maintenant on retrouve Rose au bastingage, qui regarde la mer, qui s'approche dangereusement du bord. Elle se retourne parce qu'elle a peur qu'on... On l'a suivie, qu'on la récupère. Elle empoigne le bastingage des deux mains. On voit écrit sous le bateau le nom du bateau, Titanic. Et ça y est, elle va passer une jambe, puis une autre. On voit les escarpins en velours rouge qui passent au-dessus du bastingage tandis qu'elle s'accroche aux cordes pour pas tomber, pas tout de suite. Et voilà, elle est passée de l'autre côté. Elle pleure, elle est retournée vers le bateau, elle regarde, il n'y a personne. Et maintenant, elle est tournée vers la mer. Si elle lâche les mains, elle tombe. Et elle regarde le trou noir qu'est la mer devant elle. Nous, on est derrière elle, on voit son dos nu. Et maintenant, derrière elle, on entend DiCaprio. N'approchez pas. Mais tenez-moi votre main, je vais vous ramener. Sûrement pas, restez où vous êtes. Laissez-moi. Je vais lâcher. Et là, il se déshabille et il fait cette chose incroyable. Il jette sa cigarette par-dessus son épaule. Mais non, vous n'allez pas sauter. Comment ça, je ne vais pas sauter? Ne me dites pas ce que je vais faire. Vous ne me connaissez pas. Bah, vous l'auriez déjà fait.
You're distracting me. Go away.
Vous me perturbez là, allez-vous-en. Écoutez, maintenant c'est trop tard, je suis impliqué. Parce que maintenant, je vous connais, donc si vous sautez, je vais être obligé de vous suivre. Mais de sauter. Ne soyez pas idiot, vous allez mourir. Non, non, je sais très bien nager. Bah, la chute va vous tuer. Non, ça me blessera, ça me tuera pas. En fait, ce qui m'embête, c'est plutôt la température de l'eau. Parce qu'elle est super froide, hein. Comment ça, froide? Très très froide? Ah bah oui, elle gèle, elle est en dessous de zéro. Voilà, la conversation est entamée, c'est fini, elle ne plongera plus, si ce n'est dans les yeux bleus de Leonardo DiCaprio, dont elle est définitivement amoureuse.
Ce qui est beau dans cette scène, c'est qu'elle elle annonce la fin de manière inversée, c'est-à-dire qu'elle est en bas, et il la soutient, il la tire hors du néant, et on aura la situation inverse à la fin, où c'est lui qui va partir dans le néant. Et c'est un peu Roméo et Juliette, le balcon. Enfin,
c'est ça. Ouais. Alors c'est Roméo et Juliette, c'est Autant d'emporte le vent, c'est l'amant de Lady Chatterley. C'est vrai, c'est ces histoires éternelles que Shakespeare avait inventées en gros. Alors j'ai lu un article très amusant d'un essayiste américain qui s'appelle Thomas C. Frank et qui dit que Titanic serait la lutte des classes, ce qu'à la même époque Spice Girls était au féminisme. C'est-à-dire ouais. Qu'il trouve qu'en fait, lutte des classes, Tintin, ça ne change rien, ça n'a rien de révolutionnaire. Ouais. Il y a toujours des riches et des pauvres, des troisième classes et des premières classes.
Ouais. Mais ce qu'on a reproché au film, c'était de ne pas filmer la seconde classe. Il n'y avait que les deux extrêmes.
C'est vrai. Les immigrants en bas, oui, et les riches en haut.
C'est ça.
Il y avait qui au deuxième alors?
Ben, les classes moyennes, ouais. J'imagine, je ne sais pas. Mais...
Les bourgeois.
Oui, oui. Il y a ce personnage intéressant qui est la parvenue.
Oui, absolument.
Par Katie Bates.
Qui est joué par Katie Bates, ouais. Absolument. Il s'appelle Molly Brown.
Oui, qui est un petit peu...
On dit d'elle que c'est new money, de l'argent neuf.
Oui.
C'est ça les parvenus en anglais, oui, c'est de l'argent trop neuf, trop frais.
Et donc, elle est vue avec un certain mépris par l'aristocratie. Et finalement, elle joue un rôle assez moteur, puisque c'est elle qui habille DiCaprio pour qu'il puisse accéder au salon. Et du coup, là, elle est de plus en plus sympathique, puisqu'à la fin, même, elle dira ramer au canot, aller sauver les... Elle essaye de
sauver.
Réveiller la conscience de tout le monde pour sauver quelques personnes dans l'eau. Ouais.
Et il y a cette jolie scène quand justement DiCaprio vient dîner, où elle lui explique dans quel ordre on se sert des couverts à table.
Oui, avec un panoramique terrifiant sur les couverts.
Exactement. Donc, c'est parti pour l'histoire d'amour. Et surtout, le but de Cameron, au-delà de la machinerie, au-delà du bateau, c'était de faire un film pour tout le monde.
I think to sum it up very succinctly, it's make it accessible somehow. Make Titanic accessible.
En fait, le but c'était de faire un film accessible. But get the audience over that hump. Faire que le public surmonte ce blocage qui consiste à voir un film d'époque avec des costumes d'époque et une langue d'époque. Il faut les impliquer.
And there's only one way to do that, which is through characters.
Et pour faire ça, il faut leur faire montrer des personnages qui vont aimer. On les aime en même temps que eux deux tombent amoureux l'un de l'autre, nous on tombe amoureux d'eux. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est embarqué avec eux sur un bateau. Parce que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire dans un documentaire. Il y a trop de personnages qu'on suit, on est trop obsédé par la vérité et du coup, on ne s'implique nulle part. Nous, on a été vraiment fidèles à la vérité de l'histoire, mais surtout au ressenti des personnages. Donc avant tout, ce que je voulais, c'est que ce soit une expérience émotionnelle, une histoire d'amour. Ma référence absolue quand j'étais jeune, c'était le Docteur Zhivago. C'est pas vraiment un film sur la Révolution russe. C'est des gens qui traversent un événement historique qui est plus grand qu'eux.
C'est très drôle qu'il cite le Docteur Zhivago, parce que justement j'y ai pensé en voyant Titanic.
Ah oui?
En pensant à la scène de Moretti, c'est dans le Journal Intime,
oui,
où tous les gens souhaitent que le film change de rail,
oui,
qu'elle rattrape le bus.
Oui.
Et là, c'est pareil, j'étais pris dans cette histoire d'amour, et je me dis, il faut que le bateau évite l'iceberg. J'espérais encore, inconsciemment, que le bateau puisse détourner de l'iceberg au dernier moment.
Alors en fait, j'ai lu quelque part qu'il n'aurait pas dû se détourner, et que s'il était rentré dedans, ça aurait été moins grave.
Il y aurait eu deux compartiments d'immergés, et pas cinq, parce que là, il a été éventré sur le côté, ouais. On est tous incollables.
Et dites-moi, le kayak, alors, ça occupe toujours une grande place dans votre vie?
Oui. Alors le problème, c'est qu'il a un seul compartiment. Donc si ça prend l'eau, c'est
ça
l'ensemble. Il faut évacuer l'ensemble de l'esquif. Oui. Mais c'est vraiment ça en fait. Cameron, son Titanic, moi et mon kayak, l'image est tout à fait juste.
Et dites-moi, est-ce que voir des films comme Titanic ou comme Docteur Zhivago, qu'est-ce que ça change à votre manière de faire du cinéma? Ça vous donne une autre ambition? Ça vous donne du courage?
Ah oui, une des qualités de Titanic pour moi, c'est une éloge, ou un éloge, je sais jamais.
Un éloge du
cinéma, dans sa capacité à... C'est vraiment l'histoire du film. Il y a Bill Paxton au départ qui est le gars qui fait les recherches sous-marines et qui est mu par un certain intérêt financier de retrouver les bijoux, le coffre. Et donc, c'est comme si on lisait la fiche Wikipédia sur le Titanic, quoi, avec une certaine froideur historique. Et tout le cinéma, c'est de refaire vivre donc toutes ces personnes, mais surtout dans un processus d'identification où on est à bord du Titanic, on est transplanté. Enfin, je trouve que ça raconte le... Cameron était ambitieux, il part d'une épave pour le faire remonter à flot et vivre sous un ciel étoilé. Je trouve que ça nous porte, ça me redonne espoir dans le cinéma, dans ce qu'il a de spécifique. Qu'une série, je crois, par exemple, je ne vais pas dire du mal des séries, loin de là, mais il y a cette idée de réincarnation que je ne ressens pas dans les séries.
Pourquoi? Parce que c'est fragmenté et qu'on détaille trop chaque personnage, peut-être, c'est ce qu'il disait sur le documentaire.
Peut-être, et puis que le cinéma s'accommode de la mort, en fait. C'est au bout d'une heure et demie, ou deux heures, ou 3h15 ici, c'est fini. Et il n'y a pas l'idée, dans la série, il y a une idée un peu naïve qui est de croire qu'il y aura des saisons 5, 6, 7, 8 et que la vie est éternelle. Alors que là, le film, dès le début de Titanic, prend en charge l'idée de la mort. Ouais.
Alors justement, à propos de l'idée de la mort, Didier Sicard sur France Culture nous expliquait que le Titanic n'est pas seulement une histoire d'amour, mais c'est aussi une manière de nous confronter à notre propre mort.
Oui, mais justement, ce Titanic, beaucoup plus que l'histoire d'amour entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, montre l'inconscient collectif à l'œuvre, c'est-à-dire comment différentes personnes, devant le drame à venir dans quelques minutes, ou une heure ou deux heures, ont des comportements qui révèlent l'hétérogénéité humaine. Entre le capitaine qui sait que son devoir est d'affronter la mort debout dans sa cabine, les musiciens qui mettent la musique à un degré supérieur, voire de transcendance pour aider les gens à mourir, entre ceux qui vont être lâches, égoïstes, ceux qui vont courir et éventuellement tromper la vigilance de ceux qui vont empêcher les hommes de monter dans les bateaux et vont prendre un enfant, ceux qui vont avoir le comportement maternel d'endormir les enfants pour qu'ils ne soient pas angoissés. Bref, il y a la richesse et la pauvreté en même temps des comportements humains qui, à ce moment ultime, révèle la grandeur ou la couardise, et que chacun évidemment s'identifie à la grandeur, mais en même temps cela révèle que cette humanité si fragile demande au cinéma de lui montrer la capacité humaine de se dépasser.
C'est ce que vous attendez du cinéma, qu'il nous montre comment on peut se dépasser?
Oui, oui. Et je crois aussi que les films nous racontent là le passé, mais nous annoncent aussi l'avenir de manière parfois inquiétante. Et il m'est venu comme ça une idée à propos de Titanic. J'aime bien cette théorie qui dit que les fins de siècle et ouvertures de siècle ne sont pas scandées uniquement par la date objective ou par des guerres, mais par des événements majeurs. Et le Titanic a peut-être clos le 19e siècle. Avec cette croyance éperdue dans la technique, le bateau était insubmersible, finalement il a coulé. Et après, inauguré peut-être par le 20e, par la Première Guerre mondiale, et le 11 septembre qui avait inauguré, on peut dire, le 21e siècle, c'était une préfiguration du 11 septembre, le Titanic, sans tomber dans un quelconque complotisme, mais il y a la même verticalité. Le bateau se redresse comme une tour et descend sur lui-même comme on fait les tours. Et on voit la chute des gens, comme on a vu ces images dramatiques des gens qui tombaient. Alors en plus, c'est une invention, parce que je crois que le bateau, c'était historiquement, la chute était 13 mètres. Et Cameron en a fait une chute de 60 mètres, mais je sais pas pourquoi, hein, mais c'est incroyablement visionnaire de ce côté-là.
C'est vrai. C'est vrai que c'est des images, quand on l'a vu le 11 septembre, c'est des images qu'on a déjà vues au cinéma.
Oui, oui, et cette mise à la verticalité.
Mais il y a aussi ça qui est terrible, c'est que vous voyez la réalité et vous pensez que c'est des effets spéciaux. Vous n'arrivez pas à croire que c'est réel, parce que vous l'avez tellement vu en effets spéciaux que la réalité n'a pas une puissance supérieure aux images qu'on a déjà enregistrées.
Oui, oui, on l'avait déjà éprouvé avec le Titanic finalement.
Alors Cameron décrivait son film comme un avion qui mettrait 3 heures à s'écraser. Et il faut croire qu'on aime se faire raconter 100 fois les mêmes histoires. Alors dans le film...
Il y a l'idée de renaissance aussi. Ouais. Un naufrage et renaissance. Quoi.
Alors à propos naufrage et renaissance, dans le film, donc après ce premier baiser, Rose... qui est poussée par sa maman, parce qu'ils n'ont plus d'argent dans la famille, et la maman a absolument besoin que Rose épouse ce monsieur pour remettre sa famille à elle à flot. Donc c'est ce mariage, c'est vraiment pour sauver la peau de sa famille à elle. Et Rose se laisse convaincre, donc il y a une scène où elle va dire à DiCaprio, non mais il faut plus qu'on se voit, c'est pas possible, parce qu'elle a passé la nuit à aller danser en 3e classe, donc elle s'est fait gronder par tout le monde, donc elle dit non, c'est fini, on ne se voit plus. Et là DiCaprio a cette phrase tellement nunuche, hors contexte, et pourtant ça passe dans le film, je vous jure, quand il lui dit tu es habité par une flamme et ta flamme va s'éteindre. Et elle dit mais non, et puis qui tu es pour me dire ça? Et puis elle s'en va, évidemment, les femmes, c'est fait pour changer d'avis, donc 10 minutes après, la revoilà.
Hello Jack.
Hello Jack. Il s'approche d'elle.
I changed my mind.
J'ai changé d'avis. Mais il ne veut pas discuter, lui. Il est au-delà de ça. Il lui dit, viens avec moi, donne-moi ta main. Et alors il s'approche de la proue du bateau.
Now close your eyes.
Ferme tes yeux.
Go on.
Allez, vas-y.
Step up.
Monte encore un peu.
Now hold on to the railing.
Accroche-toi au bastingage.
I'm not.
T'as pas peur, hein?
Step up on the
Fais-moi confiance. Oh, vous
Hold
la connaissez
on.
L'image.
Hold on. Keep your eyes closed.
La mer, le bateau,
trust
les deux silhouettes, en proue.
I trust you.
Je te fais confiance. La lumière est belle, la mer est bleue, le ciel aussi. Et ils sont d'une beauté tous les deux.
Open your eyes.
La caméra est au-dessus d'eux. Et on fend la mer. Et elle tend les bras. Je vole. Il la tient par la taille. En fait, c'est la même impression que le Christ de la Baie de Rio, vous savez. Et puis voilà, elle se retourne et ils s'embrassent. Et ce qu'il y a de fou, c'est que après un moment pareil, on se dit, bon, il n'y a pas plus nunuche que ce baiser, cette mer, ce coucher de soleil. Qu'est-ce qu'il va nous faire derrière? Et bien, qu'est-ce qu'il nous fait derrière? Il nous ramène à l'épave. Et d'un seul coup, c'est comme un jet d'eau froide sur la figure. On se dit, ah oui, dans combien d'heures ils vont mourir? Et on vous dit, ben en fait, 6 heures plus tard, le bateau est coulé.
Oui, oui, il y a un raccourci terrible. Ce qui est beau dans cette scène hyper cliché, c'est qu'elle arrive à se transcender quand même. Ils ont les pieds sur un mastodonte et ils volent. Enfin, ils sont en apesanteur sur un monstre, oui. Et je trouve très fort de revenir à l'épave à ce moment-là du film.
Ouais. Oui, parce que vraiment. On a oublié, déjà. On est avec eux sur le bateau, donc on a complètement oublié.
Il est tellement sûr de la force de son film qu'il se permet comme ça.
C'est incroyable.
Des glaciations en cours de route.
Ouais. Ah ouais. Alors, est-ce que, à votre avis, en tout cas, ça a été la critique qu'on a beaucoup fait au film, c'est que la technologie était omniprésente dans le film. Est-ce que vous la sentez, vous, la technologie, quand vous voyez le film, ou est-ce que vous l'oubliez complètement?
On la regarde un peu attendrie, parce que depuis, on a fait comme des progrès sur le, notamment les petits personnages sur le pont. On voit qu'ils sont vraiment animés de manière assez rudimentaire. Mais le film, je ne crois pas prétendait tant que ça au réalisme dès le début. Il est très onirique. Presque, on a l'impression de les voir, la scène dont on parlait, devant des fonds peints, je la trouve déréalisée. Je ne crois pas qu'ils cherchaient, le ciel est étoilé, enfin le bateau est toujours lumineux alors qu'il aurait dû être éteint dans le noir malgré le ciel dégagé. Donc j'ai une volonté, à mon avis, chez Cameron, de ne pas courir après le réalisme.
C'est une fable alors?
Oui, on peut le prendre comme ça, oui.
Alors la technologie de James Cameron, il nous en parle un peu. Les gens parlent de la technologie, mais c'est un paradoxe, parce que la technologie, elle est créée par les hommes quand même. Et puis elle fait partie de nos vies quotidiennes. On prend la voiture pour aller travailler, on allume notre ordinateur. Et comment on utilise la technologie? On communique sur les réseaux, on envoie des textos, on s'écrit, qu'est-ce que tu fous, comment tu vas? On est comme des primates en fait, on absorbe la technologie comme ça nous arrange. Donc pour moi la technologie ça fait partie du procédé. Et puis faire des films, de toute façon c'est technique. Même si c'est deux personnes qui discutent sur un banc, il y a quand même besoin de lumière, de son, de caméra, du mix, de la musique. Ça a toujours été un truc technique. Quelque chose qui va aller de la lentille au film, donc c'est quand même quelque chose de magique. Et puis c'est ce qui est aussi magique, c'est d'arriver à nous faire intéresser à deux personnes assises sur un banc. Être metteur en scène, c'est connaître la technologie et s'en servir de façon artistique. Alors bien sûr, les gens sont allés le voir plusieurs fois, on a beaucoup parlé des jeunes filles de 14 ans. Ok, mettons 250 millions de dollars de jeunes filles de 14 ans, ok, enfin il reste 1,6 milliard quoi. C'est d'autres gens.
6 billion of non-14-year-old girl repeat business. So a lot of people were coming back to see the film, or they were telling friends.
Les gens y retournent et surtout ils amènent leurs copains en disant t'as pas vu Titanic, attends je retourne avec toi.
Oui, d'aller en masse assister à un naufrage,
c'est quand même incroyable. C'est pour se rassurer, vous croyez?
Je pense qu'il y a, on en parle un peu là, l'idée de renaissance aussi. On sait très bien que ça va pas finir dans la noirceur de l'océan. Il y a une histoire d'amour qui va. Quand on voyait le film, on savait pas l'issue fatale pour DiCaprio. Donc on était quand même. C'est peut-être le cas des gens même sur un bateau en train de couler, portés par un
espoir,
une lumière d'espoir, oui.
Ouais. Non, puis il y a aussi l'idée de se dire bon après tout, on est au cinéma, peut-être qu'il a changé la fin.
Oui, il y a aussi peut-être la jouissance d'assister à la mort au travail, peut-être un truc dans l'obscurité de la salle où les gens vont bien voir des films d'horreur, je veux dire, pourquoi pas les films catastrophes, c'était un genre en soi du cinéma, où il y a une jouissance d'être dans le confort face à un effondrement. Mais je crois que les gens ont quand même perçu, je parlais d'histoire de fin de siècle, que quelque chose
se terminait.
S'ouvrait et se terminait. Ouais, ouais.
Alors, il y a peut-être aussi autre chose qui peut expliquer l'immense succès de Titanic. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est quelques mois après la mort de Lady Di quand le film sort. Et donc le côté émotion collective, on l'a vécu 4 mois avant. Et quand le film sort, rebelote, émotion collective absolument immense.
Oui, oui.
Et dans tous les pays, la même chose. C'est Hitchcock qui disait, quand je fais un film, c'est pas pour une personne dans la salle, c'est pour 10 000 personnes dans tous les pays qui doivent ressentir la même chose en même temps.
Oui, oui.
C'est rarissime. Et Titanic, il a réussi ça quand même.
Oui, oui. Bien qu'on peut pas dire que l'aristocratie sorte grandie du film.
Certes.
Le portrait est quand même assez caricatural du côté des nantis.
Oui, mais en même temps, même la lutte des classes se ressent dans le sauvetage, puisqu'il y a eu 60% des troisièmes classes atteintes et seulement 20% des premières classes. Donc les riches en sont mieux sortis que les pauvres parce qu'on les a mis dans les canaux.
Ah oui, il paraît que même que, en fait, c'est vrai que ce qu'on voit dans le film, des pauvres ont été enfermés.
Ils ont fermé les portes.
Pas pu accéder au pont supérieur.
Ouais, c'était assez atroce. Alors après Titanic, chose incroyable, il enchaîne avec Avatar. Est-ce que vous l'avez vu, Avatar?
Oui, bien sûr, j'ai vu en 3D, comme beaucoup de gens. J'en reviens pas que ce film ait fait plus que Titanic.
Moi non plus. Moi non plus. Parce que pour moi, il est quand même beaucoup moins émouvant, touchant.
Ah oui, oui. Il est même bourrin, moi, je peux le dire. J'ai trouvé terriblement brutal, sous un fond d'écologie, de respect de la nature. Il était, j'ai une vision de ce type assez extraordinaire, très musclé, là, l'espèce de général qui conduit des engins de guerre. J'ai quelque chose d'un passage en force terrible, et avec un mix d'idées reprises, dans, un mix piqué dans Matrix, l'idée je... Mon corps et l'âme et mon esprit est dans un autre monde. J'ai trouvé que c'est une espèce de cocktail pas très beau en plus.
Alors, on résume vaguement Avatar. Donc, la crise énergétique a conduit les hommes de la Terre à tenter de coloniser Pandora, une exolune à des années-lumière, pour y exploiter un minerai très rare. Mais l'atmosphère là-bas est toxique, donc les hommes lient leur esprit à un avatar, un corps biologique qu'ils arrivent à commander à distance. Et on en voit Jack Sully, un ancien marine qui est en fauteuil roulant, mais son avatar, lui, peut marcher. Il doit infiltrer les navies des autochtones devenus un obstacle à l'exploitation du minerai. Jusqu'au jour où c'est une belle navie, Neytiri, qui sauve la vie de Jack. C'est une navie, donc on est comme dans Danse avec les loups de Kevin Costner, où un soldat se fond dans les cultures qu'il était venu combattre, ou comme La forêt d'émeraude de John Borman, la même histoire d'amour impossible que dans Titanic, que dans Pocahontas. Ça sort en 2009, il est premier au box-office mondial en 6 semaines.
Ou Johan et Pierre-Louis parmi les Schtroumpfs.
Exact. Et les Schtroumpfs n'étaient pas sur fond vert, ils étaient naturellement bleus.
Oui.
Alors, ce qui est fou, c'est qu'il perd le titre de premier film au monde, plus gros succès mondial, devant Avengers. Et puis finalement, le film Avatar ressort en Chine et il redevient premier au monde. Donc, le roi du monde a créé un nouveau monde.
Ouais.
Et surtout, il crée, ce qui est fou, de nouvelles salles. C'est-à-dire que d'un seul coup, toutes les salles se sont mises à la 3D. Même en France. Les circuits qui vraiment résistaient,
oui, oui,
d'un seul coup, se sont mis à la 3D. 3D qui remonte quand même au Frères Lumière, parce que le train qui arrivait en gare de la Ciotat, les gens hurlaient dans la salle parce que le train leur arrivait dessus.
Hein. Oui, oui. Et Méliès avait tourné un film en 3D sans
exactement
le savoir. Enfin,
exactement, sans le savoir.
Mais
ouais,
depuis, la 3D n'a pas tellement continué. Il y a de moins en moins de films, j'ai l'impression qu'ils sortent en 3D.
Alors justement, on va parler de ça, de la 3D, de la technologie, parce que James Cameron, quand il a fait Avatar, en fait, il est passé de la motion capture à la performance capture. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ?
La performance capture, je crois que c'est les capteurs sur qu'on met sur les acteurs.
C'est ça.
Et comme ça, on a en mémoire leur mouvement naturel.
Voilà, c'est-à-dire qu'avant, avant, on leur mettait des capteurs sur une espèce de tenue en lycra.
Oui.
Mais pour le visage, c'était vraiment pas terrible parce qu'on savait pas quoi faire du visage. Et maintenant, tout a changé. James Cameron nous explique pourquoi et comment.
So, you know, and because of the nature of this film, you know, with this alien clan.
Avec Avatar, vu la nature de ce qu'on voulait faire avec des extraterrestres, il fallait qu'on change. Et ça aurait été horrible, comme on faisait d'habitude, en mettant des capteurs sur le corps et les gens sont peints en bleu et ils courent partout, ça aurait été épouvantable. Et ça, c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Je voulais que ça ait de l'allure. Alors j'ai attendu que la performance capture soit au point, parce que je trouvais qu'elle l'était pas du tout.
And you know, I started seeing things that looked like they
were. J'ai commencé à voir des films où je me suis dit tiens, c'est pas mal, comme King Kong ou Le Seigneur des Anneaux, toute la série.
You know, King Kong, even.
Le Golem.
So, I thought, all right, maybe it's time to start this.
Et je me suis dit, bon, on va s'y mettre alors.
You know, cut to 2005.
En 2005, donc. On a fait encore un pas en avant pour la performance capture parce qu'on s'est dit il faut s'occuper du visage. Parce que les corps, ça allait, mais les visages n'étaient vraiment pas humains. En tout cas, il n'y avait pas d'émotion. Alors on a inventé un casque. Un casque fait d'après un moulage qu'on vous colle sur la tête.
Ça fit très tightly and smoothly and comfortably.
C'est très confortable à porter, c'est vraiment collé sur vous. Et puis il y a une caméra qui se pose devant vous, qui est accrochée au casque. Et cette caméra vous filme en extrême gros plan. Donc vous pouvez courir, sauter, faire toutes les grimaces que vous voulez, traverser de l'eau. La caméra filme absolument tout. Le mouvement des yeux, le mouvement des lèvres, le mouvement de la langue entre les lèvres pour certaines labiales.
You know, phonemes and so on. So, and that proved to exactly be the kind of holy
grail. Et c'était ça la solution, le Graal de comment faire.
Ce qui est joli, c'est que finalement on reste sur l'humain, c'est-à-dire qu'on capte les réactions humaines. C'est pas la machine qui crée le, comme dans un dessin animé, le
mouvement,
le mouvement, ou l'émotion de l'être humain. On reste la richesse, le fondement, c'est la perception et la vie d'un visage. Quoi.
Heureusement.
Et je crois que maintenant c'est le regard qui est toujours pas encore ça.
Totalement au point. Ouais, ouais. Ouais. Ben oui, parce que la caméra a du mal. Je pense que l'œil bouge trop vite.
C'est très compliqué, un œil. Je trouve que c'est toujours ça bute sur la vie dans l'œil. N'y est pas. Il n'y a pas la petite flamme, pour reprendre DiCaprio.
C'est le moment d'écouter Jean-Luc Godard.
Je veux dire, je suis bien gentil de répondre à ces questions.
Alors Jean-Luc Godard, est-ce que ça vous intéresse la 3D?
Oui, mais aujourd'hui, si je veux faire un film en 3D, je trouve personne.
Parce qu'on en est revenu un peu de la 3D aussi.
Ben, ils sont partis, mais ils ne sont pas revenus. Il aurait mieux fait de continuer à tourner uniquement en 3D.
Mais ça n'importe rien. Déjà, il faut mettre des lunettes sur des lunettes.
C'est ça l'embêtant. Donc, les ingénieurs n'ont pas trouvé. Donc, c'est un échec de la science.
Pour Noël 2022 et la sortie d'Avatar 2, James Cameron nous promet une 3D sans lunettes.
Oula.
Ouais.
Vous savez, j'ai assisté à un tournage de Scorsese en 3D et je me souviens, on est obligé d'avoir des lunettes pour voir les retours vidéo. Et j'ai l'impression que tout le monde se moquait de Scorsese, que tout le monde avait les mêmes lunettes que lui. C'est très très drôle à voir.
Ah, vous étiez sur le tournage du film sur Méliès, justement.
Oui, Hugo Cabret.
Merveilleux film.
Hein. Oui.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'avoir une autre idée pour la fin. C'était quoi votre idée de fin?
Ah oui. À la fin, elle jette le bijou, le cœur bleu,
ouais.
Dans la mer. Et en fait, je trouve que l'idée qui aurait été encore plus belle, ce bijou n'est pas si intéressant dans le film en tout cas. C'était juste qu'elle s'approche du bastingage à l'arrière et qu'elle crache.
Elle crache.
Elle crache dans la mer.
Ouais.
C'est à la fois totalement dérisoire.
Ouais.
C'est un geste très marquant dans le film. À plusieurs reprises, il crache, il joue au concours de crachat.
C'est vrai, comme
ça qu'elle s'émancipe aussi, c'est juste en crachant. Et là, je trouve que d'envoyer un peu de sa salive se mélanger à l'océan, là où lui a disparu, c'était assez beau.
Alors justement, est-ce normal qu'il ait disparu? Vous savez qu'il y a un immense débat depuis la sortie de Titanic. C'est que les gens disent qu'il aurait pu tenir sur le morceau de porte qui sert de radeau.
C'est l'effet Dr Jivago de s'accrocher.
Voilà. Alors, imaginez-vous qu'il y a des étudiants britanniques de la très sérieuse université de Westminster qui ont fait le calcul en 2017 et qui ont dit que oui, absolument, il y avait de la place sur la porte pour qu'il tienne à deux. Ce à quoi James Cameron dit « Vous êtes des idiots, le problème n'était pas la place, mais la flottabilité de la porte ». Toujours est-il que pendant la promo de Once Upon a Time in America, le film de Tarantino, Brad Pitt passe son temps à charrier DiCaprio qui dit non, no comment. Alors, ça va jusqu'au Golden Globe, où donc Brad Pitt a le Golden Globe du meilleur second rôle pour Once Upon a Time in America. Il remercie DiCaprio, il dit que c'est grâce à lui, que c'est un partenaire extraordinaire, etc., etc. Donc il le couvre d'éloges et il termine en disant « Still, I would have shared the raft. » Quand même, moi je me serais mis sur la porte. Alors maintenant, depuis quelques années, subsiste la rumeur que DiCaprio ne serait pas mort et qu'on pourrait faire une suite. On est allé demander en 98, Vincent Jeuve s'est allé demander aux gens dans la rue ce qu'ils pensaient d'une suite.
C'est stupide. C'est clair que c'est pour des raisons commerciales, pour gagner du pognon. Et ça, c'est pas bien du tout.
C'est une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on peut dire après Titanic?
Je crois que je vais noyer mon chagrin.
Ça serait une histoire inventée, ça n'a plus de sens avec la réalité. Alors là, on a voulu se baser sur une réalité qui doit se terminer là, d'après moi.
Ils la rechercheraient dans l'Europe en guerre des années 14-18.
Bah, ils savent plus quoi inventer. Et avec les extraterrestres aussi qui débarquent et qui attaquent.
Alors ça fait penser aux dinosaures de Jurassic Park un peu, non? Non, ça le ferait pas du tout, non.
Ça risque d'être un peu lassant aussi quand même. Déjà 3 heures et tout, ils vont en foutre 3 heures, ça fait 6 heures à se taper, c'est quand même un peu embêtant quoi.
Ce qui avait plus, c'était le naufrage, le bateau qui était super beau.
D'amour.
Voilà. C'est pas la guerre 14-18, ça, à mon avis, ça fera pas un gros carton.
Ça risque de faire un beat s'il n'y a pas DiCaprio derrière quand même, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui sont allés pour lui quoi. Enfin, en fille.
En fille, hein, parce que les garçons, ils sont pas allés voir DiCaprio, mais ils oublient qu'ils étaient peut-être allés voir Kate Winslet aussi.
Il y a un truc touchant, il faut lire la fiche Wikipédia sur le film, parce que dans le résumé, vous savez, chacun rajoute sa petite phrase, et ils disent Kate et Jack tombent amoureux, mais leur amour est troublé par le naufrage du bateau. C'est joli, c'est-à-dire
très joli.
Et aussi, De Niro, qui aurait dû jouer le capitaine, n'a pas pu faire le film parce qu'il avait une gastro. C'est dans la fiche Wikipédia.
Mais ils ont de l'humour à Wikipédia, dis donc. Alors, le naufrage, évidemment. Ben, on va se le faire, le naufrage. Allez.
I don't know about you, but...
Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, j'ai bien l'intention d'écrire une lettre de protestation à la White Star Line. Il est dans l'eau, il a les lèvres bleues, il est gelé. Elle est donc sur le radeau, sur la porte qui lui sert de radeau. Et ils sont frigorifiés, bien sûr.
Don't you do that.
Elle lui dit qu'elle va lâcher, il dit non.
Don't you say your goodbyes.
Ne me dis pas au revoir.
Not yet. Do you understand me?
C'est pas le moment des adieux.
I'm so cold.
J'ai tellement froid.
Listen, Rose.
Écoute-moi.
You're gonna get out of here.
Tu vas t'en sortir, toi.
You're gonna go on. And you're gonna make lots of babies.
Tu vas continuer, tu auras plein d'enfants. Tu les verras grandir.
You're gonna die an old.
Tu mourras en vieille dame. Tu seras au chaud dans ton lit.
You must promise me.
L'image est bleue, hein.
That you'll survive.
Tout est bleu. Et leurs dents tremblent.
You won't give up.
Ne renonce pas, quoi qu'il arrive. Elle dit, je sens plus mon corps. Et alors là, il y a ce plan hallucinant, vraiment hallucinant, du bateau qui cherche des rescapés. Il a un homme avec une torche qui crie. Et l'autre lui demande, tu vois des corps, des gens qui sont vivants? Non, non, je vois rien. Venez, venez par là. Et là, vous voyez une mer de cadavres dans les bouées. Et il pourrait très bien ne rien nous montrer, ne pas nous montrer les visages. Et il nous les montre. Et c'est vraiment incroyablement gonflé de sa part. On baignait dans une histoire romantique. Et d'un seul coup, on est ramené à la réalité des cadavres qui entourent la barque. Et il donne cet ordre à ses hommes, attention avec vos rames, ne tapez pas sur les cadavres. Est-ce que quelqu'un est vivant? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le bateau s'éloigne, et nous on voit Rose, qui n'arrive même pas à crier, évidemment. Et l'homme sur le bateau se désespère de voir tous ces cadavres. On a attendu trop longtemps. Continue à vérifier, continue à regarder. Est-ce qu'il y a qui que ce soit de vivant? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est le silence des cadavres, évidemment. Et là, écoutez bien la voix de Kate Winslet, qui n'a plus de voix, justement. Et qui dit à DiCaprio, je ne renoncerai jamais. Et elle le lâche. Et il s'enfonce dans l'eau glacée. Et là-dessus, elle quitte son radeau. On se demande ce qu'elle fait. Et en fait, elle va à la nage rejoindre le cadavre le plus proche d'un homme qui a un sifflet. Et elle accroche. Elle décroche le sifflet et elle le met à ses lèvres. Et c'est ce qui va la sauver, bien sûr. Demi-tour. On l'a trouvé. Rose survivra.
Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'ils terminent. Ils sont tous les deux vus un peu comme deux statues de sel, comme le film Les Visiteurs du Soir.
Ouais. Ouais.
Les deux amants. Ouais.
C'est beau, hein?
Oui, c'est très beau.
Et ce qu'il y a de très beau aussi, c'est qu'après, elle est sauvée. Donc, on la retrouve sur le bateau qui les ramène à New York. Et l'horrible mari... la cherche et elle se cache sous une couverture. Et quand je vous disais que le film est hanté par le suicide, le mari se sortira vivant de Titanic, mais finira avec une balle dans la tête parce qu'il ne survivra pas à la crise de 29 et il sera puni.
Ouais. L'idée de suicide revient effectivement, vous n'en avez pas parlé, mais le Murdoch aussi, un type qui se tue, qui se serait peut-être pas tué en vrai d'ailleurs. Ouais. Donc il était un peu obsédé par l'idée de suicide. Même ce film pouvait être perçu comme un suicide.
Pour lui.
Pour lui, ouais.
Un peu de musique pour faire le questionnaire.
Ah oui.
Ce sera joli. Alors, Bruno Podalydès, quelle est la première séance dont vous vous souvenez?
Je pense que c'est Livre de la Jungle.
Ah.
Avec ce déchirement sortant dans la rue et de me dire mais j'étais complètement plongé dans le monde et de quitter le film raconte de quitter la jungle pour rejoindre la société des hommes. C'était un petit peu ça aussi le passage du cinéma.
La dernière séance qui vous est marquée?
Oh, je crois que c'est l'ouverture à Cannes, ouais. Parce que tout le monde se retrouvait, c'était très fort. Il y avait un petit discours un peu, comment on dit, ingénu de Dora Tillier que j'ai beaucoup aimé sur la magie. Mm-hmm. Dit très simplement, c'était le joli repas de communion, de mariage. J'ai souvenir d'une allégresse.
Et d'une émotion.
Et d'une grande émotion, avec des couleurs. Spike Lee qui a changé de lunettes entre sa montée des marches et voilà.
Et qui avait des costumes flashy aussi, lui.
À se repenser au Titanic, ce serait bien qu'il y ait un orchestre, quand même, un vrai orchestre sur scène dans ces cas-là.
Quelle bonne idée. Votre film de chevet?
C'est une partie de campagne. Petit bijou, très court. Qu'on peut voir à chaque saison et à chaque saison de sa vie aussi. Je le revois régulièrement. Ma perception change au fur et à mesure que je gagne en âge. Voilà.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Porco Rosso, le film de Miyazaki. Mm-hmm. Parce que c'est le paysage pour moi idéal, l'espèce d'Italie. Je sais, le lieu n'est pas fixé dans le film, mais se poser qu'un avion rouge comme ça, rejoindre une très jolie femme qui vous attend sur un ponton. Puis il y a une esthétique de l'aviation chez Miyazaki qui me touche. Si on me demande les films d'avion, j'en rate pas un.
Oui.
Je dirais que c'est celui-là, le plus proche de l'amour que j'ai pour la beauté des avions.
Le classique qui vous laisse de marbre?
Alors, je n'ai pas vraiment trouvé de film. Par contre, je vais avouer une chose. J'ai ri de ma constatation. Je n'aime pas beaucoup les deux cinéastes qui sont deux immenses cinéastes, un peu à l'autre bout chacun du spectre.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, d'un côté, Bresson, mm-hmm. me laisse son assaise, même si j'ai lu et relu Note sur le cinématographe, que j'aime beaucoup. Voilà. Je m'ennuie un peu. Et l'autre côté, la truculence, le cirque de Fellini.
J'étais sûr que vous diriez Fellini.
Ouais,
je sais pas
oui.
Pourquoi.
Ouais. Voilà, et c'est drôle, ces deux cinéastes, quand même, très opposés.
Ouais. La pépite que personne ne connaît.
Alors, j'ai ri en écoutant votre émission, parce qu'on avait tous à bout de course en tête.
C'est vrai, rigolo. C'est marrant. Hein,
ouais, ouais. Et du coup, je pense à un film très proche qu'une amie, Séverine Rocaboy, là, je la cite parce qu'elle tient, elle s'occupe du cinéma de Saint-Gratien, m'a suggéré, mm-hmm. qui s'appelle Breaking Away de Peter Yates.
Ah oui.
Très proche. Vous connaissez,
ouais, ouais.
Je connaissais pas.
Très, très beau film.
Ouais. Et ouais, ouais, ouais. J'étais très ému en voyant ce film.
Votre voix de cinéma préférée?
Et j'ai cherché une émotion d'une voix et c'était celle d'Henri Laborie dans Mon oncle d'Amérique, qui n'est pas un acteur, mais j'ai été subjugué à l'époque quand j'ai vu le film au cinéma par cette voix qui était une voix non paternaliste, un peu fragile, d'un grand scientifique qui mélangeait comme ça la sensibilité et l'assurance exploratoire des scientifiques. Donc, cette voix m'a marqué.
Votre salle de cinéma préférée?
Ben, je viens d'en parler, c'est à Saint-Gratien, Cinéma L'Étoile. Là, je parle plutôt en tant que réalisateur. Je suis accueilli à chaque film de manière tellement merveilleuse.
Ouais.
Là, ils avaient organisé une descente des marches pour moi, comme on n'a pas pu aller à Cannes.
Et donc, c'est joli,
tous les spectateurs sortaient leur iPhone et faisaient des photos en appelant mon prénom. C'était délicieux.
Votre prochaine séance?
Ça va être le film de Yacine Kenya qui est sorti il y a je crois une semaine. C'est un premier film et j'avais un peu parlé avec son réalisateur. Il était tellement touchant dans sa volonté de bien faire, son trac.
C'est quoi le titre?
De bas étage.
Ah oui.
Et j'ai hâte de voir son film.
Votre vœu cinéphile?
Alors, j'entendais c'est vrai qu'on peut tout souhaiter que les films restent en salle, enfin que le cinéma continue. Moi, j'ai un vœu très très concret à court terme, puisque les plateformes, il y aura toujours, qu'elles respectent, qu'elles adoptent une charte entre elles, qui respecte un peu plus les films. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ne mettez pas de logo en permanence sur l'image, ne coupez pas les génériques, n'annoncez pas le programme suivant dès le premier carton, et ne permettez pas aux spectateurs de regarder en accéléré un film. Tout ça est disgracieux, et voilà, il faudrait que les films arrive, reste entier. On propose pas au musée une moitié de tableau ou, enfin voilà.
Je suis tellement d'accord avec vous. Merci Bruno Fadalides d'être venu aujourd'hui. Demain, ce sera Nicolas Saada qui viendra nous parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je remercie Doria Zénine à la réalisation, Lila Bozos à la préparation et Jean-Guilhem Mège à la technique. Bonne journée, à demain 11h en direct. Au revoir.